Alain Delis, une rétrospective sur l'année 2020 au cinéma. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à un nouvel épisode de En plein Delis, le podcast du Delis, le seul journal étudiant francophone de l'Université McGill. Alors, le concept d'aujourd'hui va être une rétrospective où mon invité, Philippe Granger, et moi allons passer au travers de l'année 2020 au cinéma et parler de nos films préférés et des actualités les plus importantes. Philippe, tu as fait beaucoup de contributions au Daily. Donc,
oui.
Les lecteurs du Daily sont familiers avec tes articles qui parlent certaines fois d'actualité, mais certaines fois aussi de cinéma. D'ailleurs, on a eu en septembre un super article sur le film Incendie, où tu nous as fait toute une sorte de gros dossier où tu repassais au travers du film Incendie.
Exactement. Pour les 10 ans du film Incendie, j'ai fait le tour un peu des artisans du film, notamment André Turpin qui est à la photographie, mais aussi Valérie Beauchamp-Champagne qui était derrière le scénario et Roger Deakins qui était partisan de Incendie, mais qui en tout cas travaillait avec Denis Villeneuve. Donc oui, vraiment, je vais avouer que je suis fier de cet article-là. Donc n'hésitez pas à faire un tour pour le lire. Je pense que ça vaut le détour.
Cette discussion se déroulera à deux. Donc, ce sera Philippe et moi, Olivier Turcotte, responsable multimédia et animateur de cet épisode de En plein délit, qui allons tout simplement parler étape par étape de l'année 2020 au cinéma. Bien sûr, on ne va pas vous répéter ce qui s'est passé en 2020. Je pense que tout le monde est pas mal au courant. Mais on va parler des conséquences au cinéma de tout cela en 2020 parce que je pense que beaucoup de gens, à cause justement du fait qu'on ne pouvait pas aller en salle, ont fini par ne voir presque aucun film sorti en 2020. Et en tout cas, pour ma part, ça a été le cas. J'ai beaucoup regardé de films sortis avant. J'en ai profité pour me rattraper sur certains films que j'avais manqués dans les derniers 10 ans.
Ben oui. Pareillement, moi, de mon bord, même si parfois, oui, on était confinés à la maison, je sais pas pour toi, mais moi, en tout cas, parfois, j'étais pas du tout d'humeur à regarder des films, tout ce qui se passait, en fait, avec tout le temps que je passais sur les réseaux sociaux, à écouter les nouvelles, à lire les nouvelles et à me préoccuper un peu de ma session, de mon été. Mon cœur était moins au cinéma, mais que ça a été quand même une année où j'ai pu regarder quelques films.
Philippe, j'aimerais commencer par passer avec toi au travers des grands événements, des grands changements et des nouvelles de l'année 2020. Philippe, si j'ai bien compris, tu as étudié un peu le box-office de 2020. Parle-nous donc de comment l'année a commencé.
Étudier le box-office, peut-être que l'expression est quand même peut-être assez intense, mais je me suis penché sur les deux premiers mois. Puis comment ça s'est passé? Ça s'est passé comme une année normale, je dirais, janvier, février. Souvent en janvier, on commence déjà, les nominations aux Oscars sortent, donc il commence déjà à y avoir un peu de buzz par rapport à ça. Les films de décembre qui sont sortis durant le temps des fêtes, je pense notamment à Little Women, commencent à gagner en popularité. C'est vraiment, moi je dirais, il y a eu un coup spécial quand il y a eu la cérémonie des Oscars. Je vais pas y aller de long en large. Je pense que vous avez tous lu les nouvelles, vous avez tous entendu en tout cas la victoire du film Parasite de Bong Joon-ho aux Oscars en 2020. Mais ce qui est important de souligner, c'est à quel point ça a permis une certaine ouverture des films étrangers, en tout cas pour monsieur, madame, tout le monde en Amérique du Nord, en Europe, en tout cas une plus grande ouverture envers les films indépendants, les films qui ont des sous-titres. Et donc, ça, selon moi, c'est quand même très important à souligner parce que c'est, disons qu'il y avait une tiédeur de la part de l'Académie des Oscars pendant très longtemps, puis que là, on commence à un peu défaire ce mythe-là. Puis donc, la pandémie oblige. C'est vrai qu'il y a plusieurs films qu'on percevait en janvier-février comme des films qui n'allaient pas, disons, avoir une grande pérennité, dont on n'allait pas beaucoup se rappeler, qui finalement se sont retrouvés à des bonnes places au niveau du box-office à la fin de l'année, justement parce que ça s'est sorti à une époque où on pouvait sortir en salle et où on n'avait pas de grandes préoccupations sanitaires. Donc, par rapport à, je veux dire, dans ces films-là, on peut nommer notamment, mais il y en a plein d'autres, mais Sonic the Hedgehog, certains ont été plus avantagés par la pandémie. Et je pense notamment aux Chinois qui ont en tout cas eu des conditions sanitaires qui ont été différentes de la nôtre, dans le sens qu'ils sont un peu en décalé puis qu'ils gèrent différemment la pandémie au niveau politique, au niveau social. Ce qui fait que c'est le film The 800, Bye Bye, de Guan Hu qui s'est retrouvé à la tête du box-office mondial en 2020, ce qui est quand même pas rien, avec donc des recettes de $461 million. Puis ça montre encore une certaine émergence du cinéma chinois dans le cinéma international, même si on s'entend que c'est très local comme box-office. Je vois que sur ces $461 million, 460 millions ont été faits à l'interne. Donc, ça montre à quel point, justement, ben, il y a une part de marché, mais aussi à quel point le cinéma chinois a du mal à aller ailleurs.
Mais ce qui est vraiment intéressant, moi, je trouve, c'est le fait que quand on regarde les recettes américaines, tous les films américains qui ont dominé sont les films qui sont sortis en janvier, en février, tout simplement parce que c'est là que les gens étaient à l'aise d'aller au cinéma. Et habituellement, les grosses compagnies qui veulent faire beaucoup d'argent avec des gros films, des blockbusters, comme on pourrait dire, en général, ces compagnies-là vont pas mettre les films en janvier, en février, parce que c'est une période où les gens vont pas tant au cinéma. Et surtout, c'est une période où quand les gens vont au cinéma, c'est pour voir les films qui sont dans l'actualité aux Oscars. Et c'est là, justement, que les compagnies vont ranger leurs films, les films un peu moins bons de leur gamme. Par exemple,
c'est moins prestigieux comme film.
Exact. Par exemple, DC Comics qui voyait son gros film de l'année comme Wonder Woman 1984 qui était censé sortir en juin, a mis le film Birds of Prey qui était un peu moins une machine à imprimer de l'argent, on pourrait dire, en février, parce qu'ils se sont dit justement que ils allaient le mettre à quelque part où ça allait pas prendre la place d'un autre film, ça allait pas être dans l'ombre d'un meilleur film. Et pourtant, Birds of Prey est, si je ne me trompe, quelque part dans les 15 films qui ont fait le plus d'argent en 2020.
Exactement. Il va sans dire, je pense que j'apprends rien à personne en disant que au final, les compagnies ont dû revoir leur stratégie et que c'est les plateformes numériques, c'est les plateformes de streaming, de vidéos sur demande qui ont été largement avantagées.
A suivi ensuite, comme on le sait tous, à partir de la mi-mars, une période où tous les films ont été repoussés, pour certains à l'été, pour certains indéfiniment, et où, pendant un instant, on a tous eu l'impression qu'on n'allait pas avoir de nouveaux films pendant vraiment longtemps, jusqu'au moment où certaines compagnies ont commencé à publier leurs films directement en ligne, où on pouvait les louer pour des prix variants. Et ce qui a été vraiment étonnant, c'est que certains films ont eu une performance plutôt acceptable. C'est-à-dire que, alors qu'on pensait encore que les salles étaient absolument essentielles pour faire de l'argent, certains films, comme il me semble Trolls World Tour, ont fait quelque chose comme 50 millions, ce qui n'était pas bas dans leurs prévisions par rapport à le genre de profit qu'ils allaient faire avec le film. Et on a vu ensuite plusieurs films qui étaient en salle juste avant la fermeture des cinémas aller directement sur les plateformes. Ensuite, alors que l'été arrivait et qu'il y avait eu un certain espoir que le nombre de cas allait diminuer assez pour qu'on puisse réouvrir les salles, on a commencé à voir apparaître certains cinéastes qui se battaient pour la réouverture des salles, dont Christopher Nolan, qui s'est donné à corps et à âme pour pouvoir mettre son film de l'année Tenet en salle, censé sortir originalement en juillet, et qui a finalement pu sortir en août dans les salles qui étaient ouvertes dans le monde et qui a fini par faire un plutôt faible box-office par rapport aux autres films de Nolan.
Exactement. Je dirais que d'un point de vue très personnel, Tenet, ça a été une saga que j'ai suivie quand même avec intérêt, parce que non seulement la responsabilité était telle forte au niveau, non seulement les grosses maisons de production regardaient du coin de l'œil ce qui se passait chez le voisin pour savoir comment eux, ils allaient gérer ça, mais aussi juste tout le monde en général se demandait s'ils allaient pouvoir voir ce gros film, voir à quel point le réalisateur et la production allaient influencer les mesures sanitaires, des mesures sociopolitiques à des fins, on s'entend, oui, culturelles, mais aussi lucratives. Donc, rendu à un point, je trouvais ça, j'étais malaisé par cette controverse et j'espérais seulement qu'au final, ça allait s'arranger avec respect, oui, des artisans, oui, des gens qui travaillent fort dans le milieu du cinéma, mais aussi avec respect des conditions actuelles.
Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a vraiment eu un 2 mois, le mois d'août et le mois de septembre, où il y avait de l'espoir pour les cinémas partout dans le monde, puisque dans plusieurs pays, les cinémas ont commencé à réouvrir, entre autres au Québec. Et au Québec, où nous sommes moins armés d'une gamme de services de streaming en ligne, il y a eu tout d'un coup une grosse vague où les compagnies commençaient à vouloir publier les films québécois de l'année. Pas les publier, mais à les rendre disponibles au cinéma, puisque justement, il y avait eu un gros décalage de tous les films qui avaient été planifiés pour l'année. Et pendant un instant, on a vraiment pensé qu'au Québec, pendant l'automne, tous les films québécois allaient sortir et les choses allaient revenir à la normale. Avant qu'au Québec, il y ait un reconfinement et que, encore une fois, on perde un peu l'espoir en les cinémas, puisque non seulement au Québec, on a pu voir un reconfinement, et eh bien Tenet a fait une performance basse, comme je le disais plus tôt, ce qui a fait en sorte que plusieurs grosses compagnies ont décidé de repousser encore une fois indéfiniment la publication de leurs films, dont par exemple le film No Time to Die, le nouveau James Bond, qui était censé sortir en novembre et qui a été repoussé en avril, puisque on voyait bien que l'automne n'était pas le bon moment pour que les gens recommencent à aller en salle en grande quantité et pour que les films puissent recommencer à faire de bonnes sommes d'argent.
Oui, au Québec, en plus, comme tu le disais, il y a eu... disons que les cinéastes, je veux dire les salles de cinéma québécoises, mais les cinéastes aussi, oui, québécois, ont fait preuve d'une grande résilience. On a vu quand même des petits succès quand même pour un Québec en temps de pandémie. On a quand même beaucoup entendu parler du Suspect numéro 1. On a entendu parler quand même un peu de La Déesse des Mouches à Feu, même si ça, désolé du mauvais jeu de mots, mais ça n'a pas pu faire long feu. Et donc, les salles de cinéma ont dû trouver des alternatives. Le cinéma moderne, le cinéma du musée, du parc et compagnie. On commençait à se tourner vers eux aussi le en ligne. Et même les distributeurs se sont tournés vers ça. Et avec MK2 qui a lancé sa nouvelle plateforme de vidéos sur demande en ligne. Je ne dis pas que c'est nécessairement la pandémie qui a provoqué ça. Peut-être que c'était déjà derrière leur tête. Mais disons que c'est sûr que ça a accéléré les choses.
Comment est-ce que cette année a réussi à influencer la manière dont on visionne nos films? Eh bien, j'ai vraiment eu l'impression que beaucoup de films qu'on pourrait appeler indie, à plus petit budget, ont eu beaucoup plus d'attention que ce qu'ils auraient eu habituellement. Habituellement, comme je l'ai dit plus tôt, il y aurait eu beaucoup de gros films, des gros films à gros budget, de grandes compagnies qui seraient sortis, qui auraient fait beaucoup d'argent et qui auraient un peu monopolisé l'attention du public. Alors que tous ces films ont été repoussés, ce qui a enfin laissé de la place aux plus petits films sur lesquels on met moins d'attentes de haute performance et qui peuvent se permettre d'être publiés en ligne du premier coup. Et le fait que ce genre de phénomène arrive juste après Parasite et sa grande victoire, contribue au fait que je pense qu'il y a un intérêt qui est apporté vers les films indie, les films étrangers. On est comme revenu un peu aux sources. On a eu l'occasion d'oublier pendant un an les gros films explosifs à grand budget. On a pu enfin revenir un peu à l'essence de ce que le cinéma peut être. Le cinéma d'artiste, le cinéma un peu original.
Je suis quand même vraiment d'accord avec toi. D'autant d'une part, on se colle à des valeurs sûres. Je pense au temps des fêtes avec Soul et tu disais Wonder Woman tout à l'heure. Donc, on a notre... entre guillemets, notre comfort food en termes de cinéma, mais autant c'est vrai que avec le temps passé à la maison, avec justement l'effet parasite comme tu le mentionnais, disons que les horizons sont agrandis parce que je pense aussi que les besoins en termes de cinéma sont plus les mêmes. On parle aussi, tu sais, on sort au cinéma avec des amis, puis c'est difficile de trouver des choses qui font consensus, tandis que là, vraiment, les gens se tournent vers ce qu'ils veulent eux et non pas en fonction de ce qui va plaire à toute la gang, par exemple. Donc, je dirais que c'est une accumulation, une sorte d'intersection de tous ces phénomènes, toutes ces conditions qui font en sorte que, ben oui, t'as raison, le cinéma indépendant puisse développer.
J'aimerais commencer en mentionnant 3 documentaires que j'ai beaucoup appréciés en 2020. Le premier documentaire que je vous présente s'appelle Boys State. C'est un documentaire de A24 et 24 qui suit un camp aux États-Unis, au Texas, où des milliers de jeunes hommes de 17-18 ans simulent la politique américaine pendant une semaine. Et ce qui est intéressant avec ce documentaire, c'est que en suivant des jeunes hommes qui essaient d'affirmer leur voix et de se faire élire dans des postes importants, on voit un vrai échantillon de ce que la politique est en 2020. Un échantillon où toutes les couches que les politiciens créent pour masquer leurs vraies intentions et leurs vraies stratégies disparaissent. Et on voit toutes ces intentions épurées chez les jeunes adolescents de 17-18 ans. Le deuxième documentaire que je vais vous proposer s'appelle « Dick Johnson is dead ». La réalisatrice de documentaire Kirsten Johnson est derrière beaucoup de grands documentaires des derniers 10 ans. Et dans ce documentaire, elle fait quelque chose d'extrêmement particulier, c'est-à-dire qu'elle explore sa relation avec son père qui commence à vivre une certaine démence et décide avec lui, avec son accord, d'explorer sa mort. C'est-à-dire qu'ils vont simuler des scénarios liés à son décès et vont passer au travers de ce que ça veut dire mourir avec lui. Le troisième documentaire que je vous présente s'appelle Time. Le documentaire Time suit une famille particulière puisque c'est une famille où le père et la mère ont été incarcérés. La mère sort de prison en premier et se filme au travers d'une décennie, il me semble, pour envoyer les vidéos à son mari en prison et pour l'informer de l'évolution de leurs enfants qui grandissent sans leur père. Et au travers de ça, plus le temps passe, plus le projet de se filmer devient aussi un projet documentaire où à la fin, on voit vraiment dans ce film une transition de tout simplement des vidéos pour son mari à éventuellement un film militant où on suit la femme qui essaie de remettre en question le système de prison américain. On a vraiment une année où on a des documentaires très intéressants tout simplement parce qu'ils sortent de la platitude habituelle que certaines personnes vivent en écoutant les documentaires. C'est des documentaires ayant chacun leur originalité et qui sont très passionnants. Donc, je vous les conseille tous les trois. On arrive maintenant dans mon top 6 de mes films préférés de 2020. Et dans mon top 6, on a 6 films qui, j'en suis presque certain, vont faire du bruit aux Oscars dans les prochains mois. Donc, mon 6e film préféré de 2020, et ça va en étonner certains et certaines, c'est le film Nomadland de Chloé Zhao. Nomadland, c'est un film très épuré sur le cycle de vie d'une femme sans emploi, joué par Frances McDormand, qui vit la vie américaine de nomade. On voit une expérience sur laquelle j'ai de la difficulté à mettre des mots, mais qui est extrêmement belle. J'ai déjà dit le mot cyclique, et dans mon expérience de ce film, cyclique est bien le terme. Dans une définition qui dépasse un peu les États-Unis de ce que certaines personnes peuvent vivre quand elles se détachent de toute la vie sédentaire et matérielle et décident de vivre la vie de nomade et de passer au travers de leur pays, d'oublier un peu tout ce qui les attachait précédemment à la vie. C'est un film que certains adorent, c'est un film qui a gagné beaucoup de prix et c'est un film qui pourrait gagner le meilleur film aux Oscars et que j'ai mis au numéro 6 tout simplement parce que dans mon appréciation personnelle, les 5 films qui suivent ont mérité mon amour et mon engagement émotionnel plus intensément.
Ben, tu l'as souligné pertinemment, Nomadland a reçu tellement de bonnes critiques dans les listes de fin d'année. Ça a été le premier ou le deuxième de plusieurs médias, The Pace, The Globe and Mail, Entertainment Weekly, Associated Press, The Guardian, en tout cas, name it, comme on dit. Ça a fait la liste de beaucoup de gens et comme tu dis, ça a gagné beaucoup de prix, comme le Golden Lion à Venise. Frances McDormand, fidèle à son habitude, offre une interprétation sentie, une interprétation que tu sens même pas que c'en est une, tellement elle joue bien. Puis Nomadland qui décrit une réalité actuelle qu'on préfère ne pas voir, mais qui pourtant existe vraiment, surtout dans l'Amérique d'aujourd'hui, dans l'Occident d'aujourd'hui. Tous les enjeux liés à notre relation avec la Terre, notre relation avec les autres. Nomadland l'explore, notre relation avec la femme et la féminité. C'est toutes des choses qui sont explorées par Chloé Zhao dans ce film, qui certes est un film que je pourrais qualifier de, très certainement de contemplatif, mais qui reste violent dans ses thèmes, puis qui reste un excellent film.
Mon 5e film préféré de l'année 2020 est le film Minari de Lee Isaac Chung. Minari est un film américain qui, pourtant, contient la majorité de son dialogue en coréen. C'est l'histoire d'une famille d'immigrants coréens qui s'achète une ferme aux États-Unis avec l'espoir de s'établir à long terme dans cette ferme et de se construire une nouvelle vie. C'est un film qui explore le concept de l'immigration, le concept des désirs de réussite, d'être accepté au travers justement de cette famille-là, qui explore aussi en quelque sorte les limites du langage et la confrontation des cultures. Quand la grand-mère de cette famille vient vivre avec eux. La grand-mère qui finit par confronter beaucoup de personnages, dont entre autres le petit garçon de cette famille qui va avoir une relation avec sa grand-mère d'amour et de haine alors qu'il apprend d'elle et alors qu'elle le confronte plus que jamais à la culture américaine dans laquelle il a été élevé puisqu'il est trop jeune pour se rappeler de la Corée. C'est un film extrêmement beau et avec Parasite, la victoire récente de Parasite qui a ouvert les esprits quant au fait d'écouter un film avec des sous-titres dans une langue qu'on ne connaît pas, quant à l'ouverture justement à la confrontation entre les cultures. Mais c'est un film qui pourrait vraiment faire du bruit aux Oscars et qui pourrait, selon certains, gagner le prix du meilleur film.
La compagnie de production et de distribution A24 semble explorer encore plus. Il est reconnu pour être quand même bon, indépendant, certes, mais aussi sortir des sentiers battus. On l'a vraiment vu dans les dernières années. Pour ceux qui ne connaissent pas A24, ils sont derrière de très, très, très nombreux films comme Lady Bird, The Florida Project, Moonlight, Amy, The Lobster. Je pourrais en aimer encore beaucoup, beaucoup, mais donc on avait vu dans les dernières années que certes, ils avaient encore des très bons films, mais que en termes de buzz aux Oscars, oui, ça avait moins eu sa place. Minari semble par contre donner un regain d'attention et envers cette production-là. Puis en plus, ça a gagné les deux plus grands prix au festival Sundance, qui est très prisé auprès de l'industrie indépendante du cinéma. Donc, je pense au moins que, même si, disons, s'il n'en sort pas avec plein de nominations, je pense que ça aurait été un nouveau bon coup pour la boîte de production.
Sinon, mon quatrième film préféré de 2020 est le film sorti très récemment sur Amazon Prime qui a acheté ce film, One Night in Miami, de la réalisatrice Regina King, qui est une actrice très connue et qui fait ici son premier film en tant que réalisatrice. One Night in Miami, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre où les personnages de Malcolm X, Muhammad Ali, avant que ce soit son nom, avant qu'il change de nom, dans le temps où il s'appelait Cassius Clay, Jim Brown et Sam Cooke, quatre grandes figures des années 60, se réunissent dans une chambre d'hôtel après un match marquant de Cassius Clay, Muhammad Ali, et discutent de leur carrière, de leur projet, du sens de l'identité, de la voix qu'ils ont. C'est un film de dialogue, c'est un film de gens qui se parlent. C'est aussi un film avec des moments très touchants, très marquants, qui est composé de quatre acteurs incroyables. Cette combinaison de quatre talents, de quatre personnalités qui se confrontent dans cette chambre d'hôtel est incroyablement captivante à écouter. Je trouve que ça mérite l'attention du grand public et j'espère que beaucoup de gens vont aller l'écouter dans les prochaines semaines. Mon troisième film préféré de l'année est le film The Trial of the Chicago Seven, les sept de Chicago. Le procès qui suit une manifestation importante à Chicago qui se révèle être profondément biaisé contre les manifestants que le nouveau gouvernement américain de l'époque cherche à mettre derrière les barreaux pour initier un changement de culture aux États-Unis pour un peu tuer dans l'œuf les mouvements progressistes de l'époque et les mouvements contre la guerre du Vietnam. C'est un film qui est porté par une distribution d'acteurs et d'actrices de grands talents. C'est un film avec un scénario incroyable, ce qui est peu étonnant du scénariste et réalisateur Aaron Sorkin. Et c'est un film qui, un peu par accident, a gagné une forte pertinence après les événements du mois de juin, puisque le film, par hasard, encore une fois, adressait plusieurs vrais problèmes qu'on a observé dans l'actualité par rapport à la manifestation et le besoin de progrès aux États-Unis, surtout.
The Trial of the Chicago Seven, c'était un très bon film. Bon, comme d'habitude, parfois en termes de vérité, tout ça, on utilise des raccourcis. Sans que là, par contre, il y ait vraiment je dirais pas qu'il y ait eu de la malhonnêteté de la part des scénaristes, du scénariste, je veux dire, d'Aaron Sorkin, qui est aussi réalisateur. Mais donc, bien que ce soit simplifié, c'est un film qui reste, qui décrit une période importante, qui, comme tu l'as dit, fait écho aux événements de juin dernier, mais aussi, je trouve, aux événements du début de l'année 2021, parce qu'on parle beaucoup de légitimité des manifestations, on parle beaucoup de comment mener des foules, pour quelles raisons, est-ce que ça en vaut la peine? Donc, clairement, toutes ces... pensées parfois qui frôlaient le machiavélisme ont fait résonnaient par rapport aux événements du début du mois de janvier au Capitole. Donc vraiment, et comme tu as dit, une belle brochette d'acteurs qui, donc c'est un film que je recommande.
Donc, mon deuxième film préféré de l'année 2020, c'est le film Mank de David Fincher, qui plonge dans le vieux Hollywood des années 30 et 40 et qui raconte l'écriture du scénario du film Citizen Kane, qui a été écrit par Herman Mankiewicz et qui a été réalisé par le grand cinéaste Orson Welles. C'est un film qui, si je l'ai bien compris, va pas avoir l'attention, qui a pas eu l'attention de beaucoup de gens, puisque c'est un film à la fois qui a un style très old Hollywood, mais c'est un film qui est créé pour les gens ayant un goût plutôt précis, un goût du scénario qui se veut intelligent et qui est constamment en train de jeter des petites blagues et qui se moque de la société. Dans mes goûts personnels, c'est un film qui m'a fortement captivé. C'est un film qui est fait par un réalisateur incroyablement perfectionniste et que j'adore, David Fincher.
David Fincher, le réalisateur, a pris un scénario de son père qui a été écrit il y a quand même quelques décennies, je dirais. Comme tu l'indiquais, très peu digeste. C'est un film qui essaie de souligner un peu l'âge d'or de Hollywood d'une manière, je voudrais dire, peu accessible, de manière assez compacte. En tout cas, pour mon cas, on comprend pas tout le temps ce qui se dit, ce qui se fait. Ça reste que c'est quelque chose de très agréable à regarder pour son hommage à l'Hollywood d'antan, un Hollywood qui, évidemment, je n'ai pas connu, mais aussi pour ses interprétations.
Et enfin, mon film préféré de l'année 2020 est le film Promising Young Woman de Emerald Fennell. Promising Young Woman, qui a pour actrice principale Carey Mulligan, qui joue une jeune femme qui va régulièrement dans des bars et des clubs, fait semblant d'être saoul et attend que des hommes gentils, entre guillemets, des bons gars, entre guillemets, comme on pourrait dire, viennent offrir d'aller la reconduire chez elle et de s'occuper d'elle, entre guillemets, pour enfin, lorsqu'ils vont essayer d'aller trop loin, de profiter d'elle, révèle qu'elle est sobre et les terrorise. Promising Young Woman, c'est un film qui adresse la société, qui blâme les victimes et qui rend la situation encore plus difficile qu'elle devrait l'être pour les victimes. Et c'est un film de vengeance incroyablement bien exécuté et intéressant. C'est un film qui est à la fois extrêmement captivant et qui n'a pas peur d'être provocateur, d'être méchant et d'attaquer la société. C'est un film qui mérite d'être dans la discussion, qui mérite de dégager beaucoup de réflexions.
J'en ai beaucoup entendu parler. En fait, je vais avouer que je connaissais de nom et c'est quand tu m'en as parlé que ça a commencé à susciter ma curiosité. J'ai bien hâte de voir ce film parce que c'est vrai que ça a l'air d'un film assez spécial.
Sinon, c'est ce qui conclurait ce podcast. J'aimerais beaucoup te remercier, Philippe, d'être venu discuter de cinéma avec moi. C'était toujours un grand plaisir de parler de cinéma avec toi, Philippe.
Ben oui, c'est toujours le plaisir est réciproque. Moi, je suis un moulin à parole et surtout en ce qui a trait au cinéma.
Sinon, merci à vous tous d'avoir écouté ce podcast. Le Daily publie tous les mardis en ligne des articles sur notre site Internet et sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur Spotify, Apple Podcasts ou peu importe où vous écoutez vos podcasts. Merci à tous et bonne semaine.